L'homme juste. Marcar et écrète fête, pays de Ouellette. Croyez si vous voulez croire, ou sinon, allez-y voir. Il était une fois un homme pauvre, très pauvre, et qui pourtant venait d'avoir un fils. Il regarde son fils, un nourrisson roux, si fin, si beau, tout tranquille dans son berceau posé devant le feu, et il se dit: je ne peux pas faire grand-chose pour le rendre moins malheureux que nous, mais je vais lui donner pour parrain un homme juste. Ce n'est pas dans ce village ici que je le trouverai. J'ai beau regarder ceux qui vont à l'église, je n'aurai pas un seul de juste, et ne parlons pas du curé, j'en dirai trop long. Je vais me mettre en route, tenter ma chance. Et le voilà parti, avec son bâton, sur la route poudreuse. À force d'aller, marchant comme on marche quand on a du chemin à faire, il arrive à l'orée d'un bois, et là, vers le milieu du jour, il voit un homme très grand, très blanc, debout devant une croix de pierre, et le soleil autour de lui faisant comme l'auréole qu'on voit au sein dans les églises. Ce grand homme tenait un bâton et paraissait chercher sa route. « Beau temps pour marcher, » dit le bonhomme. « Beau temps, » dit l'autre. « Et vous donc là, où allez-vous comme ça ?»« Nulle part vraiment. » Je cherche un parrain pour mon fils nouveau-né. Oh, un parrain! Je fais l'affaire, je pense. Je veux bien lui servir de parrain. Ah, mais attention, je veux un homme juste. Oh, vous ne pouviez pas mieux tomber, je suis le bon Dieu, le Père éternel. Le bon Dieu? Oui, c'est moi. Et vous vous trouvez juste? Non, mais vous n'entendez donc rien, mais partout sur la terre, on se plaint de vous. On se plaint. Et pourquoi, je vous prie? Pourquoi? Mais enfin, les uns, vous les envoyez dans ce monde tout chétif, d'autres en pleine santé. Les uns, comme moi, des travailleurs, des gens honnêtes, s'échinent au boulot pour 3 francs 6 sous. Et d'autres, des bons à rien, et filous, en plus de ça, vous les engraissez. Ah non, vous ne serez pas le parrain de mon fils. Adieu, et tâchez de faire mieux. Et le voilà parti avec son bâton sur la route poudreuse. À force d'aller, marchant comme on marche quand on a du chemin à faire, il arrive à une croisée de route. Et là, près d'une autre croix de pierre, il voit un vieux très grand, mis comme une statue d'église, avec des cheveux blancs, une barbe blanche et une robe blanche qui flotte dans la lumière. « Beau temps pour marcher, » dit le bonhomme. « Beau temps, » dit le vieux, « et vous donc là, où allez-vous comme ça ?» « Nulle part vraiment. Je cherche un parrain pour mon fils nouveau-né. »« Oh, un parrain. Je fais l'affaire, je pense. Je veux bien, moi, lui servir de parrain. »« Ah, mais attention, je veux un homme juste. »« Oh, vous ne pouviez pas mieux tomber, je suis Saint-Pierre. »« Saint-Pierre, le portier du paradis, celui qui tient les clés ?»« Mais oui, c'est moi. »« Oh, dame, alors vous n'êtes pas juste. »« Pas juste, et pourquoi, je vous prie ?» Pourquoi, vous le demandez? Mais vous refusez votre porte à des braves gens comme moi, sous prétexte qu'après avoir trimé toute la semaine, ils boivent un petit coup de trop. Ou parce qu'ils travaillent le dimanche, et serait-ce même que pour sauver la moisson. C'est bien là ce qu'on nous dit à l'église. Oui, oui, mais tout de même. Et puis quoi, vous êtes bien le prince des apôtres, le chef de l'église? Oui, oui. Eh bien, dans votre église, c'est comme partout ailleurs. On n'y a rien que pour de l'argent, et le riche passe toujours avant le pauvre. Ah non, dame, vous ne serez pas le parrain de mon fils. Adieu. Et le voilà parti, avec son bâton, sur la route poudreuse. À force d'aller, marchant comme on marche quand on a du chemin à faire, il s'arrête boire un peu près d'une source d'eau froide. Et voilà que s'approche une espèce de grand maigre aux yeux creux, tout en haillons, et portant sur l'épaule une faux à l'envers. Beau temps pour marcher, dit le bonhomme. Beau temps, mais un peu humide pour les eaux. Et vous donc là, où vous allez comme ça? Nulle part vraiment, je cherche un parrain pour mon fils nouveau-né. Oh, un parrain? Je fais l'affaire, je pense. Je veux bien lui servir de parrain. Ah, mais attention, je veux un homme juste. Un homme juste, mais vous ne trouverez jamais plus juste que moi. Ouais, ils disent tous ça. Et qui vous êtes?
Je suis l'Ankou. Le trépas. La mort.
Ah. L'Ankou. Oui, vous, c'est vrai, vous êtes juste. Vous n'avez de préférence pour personne. Riche ou pauvre, faible ou fort, vous prenez tout le monde. Ni l'or, ni les prières, rien n'y fait. Pas de doute, vous êtes juste. Bon, vous serez le parrain de mon fils. Venez si vous voulez.
Je veux bien, dit l'Ankou.
Et sur ce don, le bonhomme s'en retourne avec la mort dans sa masure. Et comme c'est une personne de tact, en dépit de sa triste mine, l'Ankou laisse sa faux sur le seuil et il a des gestes si délicats pour prendre le nourrisson qui lui sourit que la femme, la mère et la belle-mère, le père et le beau-père, la marraine et le prêtre ne font pas tant d'histoires. Après avoir baptisé le petit comme il faut, tout ce monde s'en revient faire chez le bonhomme un petit festin de cidre et de pain noir. Le cidre est un peu aigre et le feu un peu maigre.
Vous êtes pauvre.
Bien pauvre, dit l'Ankou en hochant sa grande tête.
Et combien de jours sans pain, dit le bonhomme.
Et combien de jours sans feu, dit la grand-mère, du fond de la cheminée, où brûle ce petit feu, tout maigre et qui crépite comme du sel.
Oui, je vois, mais comme vous m'avez choisi pour être le parrain de votre fils, je vais vous dire un secret qui pourra vous rendre la vie plus facile. Au lieu de gratter la terre sans profit d'argent, vous là, mon compère, vous vous ferez guérisseur. Et le secret, le voilà, quand vous serez appelé auprès d'un malade, si vous me voyez à la tête du lit, vous direz que vous le sauverez, et vous n'aurez qu'à lui donner ce que vous voudrez, même de l'eau claire, il en échappera. Si, au contraire, vous me voyez au pied du lit, le malade mourra et tous vos soins n'y feront rien. Tâchez d'agir au mieux. Et n'oubliez pas de réconforter vos malades, s'ils vous appellent, c'est qu'ils sont dans la peine. Voilà donc le bonhomme qui se fait guérisseur. La grand-mère lui prépare des tisanes d'herbes amères. Peu à peu, les malades lui arrivent. Il voyage à travers les bois et les campagnes. Il aide les uns, il soulage les autres. Il laisse mourir ceux qui doivent mourir. Et les années passent, la vie change. Comme le bonhomme prédisait sans jamais se tromper la mort ou la guérison des malades, et comme ses remèdes ne lui coûtaient pas cher puisqu'il ne donnait que de l'eau et des herbes amères, sa fortune s'arrondissait au fur et à mesure que son fils grandissait. Et ce fils, c'était un garçon drôle et gentil, roux comme un écureuil et fin comme un renard, mais sans une ombre de méchanceté, un vrai don du ciel. Il savait lire à livre ouvert, compter de tête, dessiner au crayon, broder au fil de soie, chanter, latiner, réciter des fables et même faire des petites potions qui pouvaient guérir tout de bon. Quand il avait l'occasion de passer dans le coin, l'Ankou ne manquait jamais d'entrer faire une petite visite à son filleul. Le bonhomme s'était fait bâtir une maison de pierre sous ardoise, avec une belle cheminée à linteaux de bois où la marmite de soupe fumait du matin jusqu'au soir en faisant plop-plop. Il ne fallait pas s'étonner de voir l'enfant grandir si bien, nourri de bonnes soupes et instruit de bons maîtres, au point que l'Ankou était fier de lui et restait faire la causette, tandis que le bonhomme écumait le bouillon. Mais plus le temps passait, plus le garçon croissait en force et en sagesse, plus le bonhomme s'affaiblissait. Un jour qu'il voyait tout courbé sur son feu, l'Ankou, qui était venu à travers la neige et se sentait plus d'attaque que jamais, lui dit en lui prenant le bras « Je viens toujours vous voir quand je passe par ici, mon compère, et vous n'êtes jamais venu chez moi. Il faut que vous veniez me rendre visite, je vous régalerai à mon tour. »« Oh, pour ça, dit le bonhomme, je n'irai que trop tôt chez vous, car pour aller on va, mais y revenir c'est une autre affaire. » « Soyez tranquille là-dessus, je ne vous retiendrai pas avant votre heure. C'est une petite visite d'amis que je vous propose. Vous pouvez me croire, vous savez bien que je suis juste. »« C'est vrai, vous êtes juste, mon compère, et donc j'irai. Car l'ennui me ronge à ne pas bouger d'ici, et c'est tout de même une chose à voir que le manoir de la mort. J'aurais regret ensuite si je n'allais pas. »« Et donc, par une nuit de lune brillant sur givre et glace, les voilà qui s'en vont à travers ciel, traversant des forêts, traversant des rivières et des bras de mer. C'est loin, il fait bien froid, mais le bonhomme ne sent ni fatigue ni froid. Enfin, Lankou s'arrête devant une sorte de manoir, cerné de murs d'un noir vitreux, où remuent les ombres d'une grande forêt. Les portes s'ouvrent, c'est là. Le maître du manoir régale le bonhomme d'un festin à plat d'un beau noir violet qui miroite et liqueur rutilante, dont il n'abuse pas. Puis il lui fait les honneurs des lieux, et tout au bout d'un long couloir, il le conduit dans une salle immense comme le ciel, où brûlent des millions de cierges. Les uns sont longs et donnent une belle lumière, d'autres sont courts et prêts de s'éteindre. Le bonhomme reste d'abord muet, tout ébloui, mais enfin quand il peut parler, il tire Lankou par la manche. Que signifient toutes ces lumières ?
Ce sont les lumières de la vie.
Les lumières de la vie, c'est-à-dire ?
Tout homme qui vit sur terre a ici son cierge auquel est attachée sa vie.
Mais il y en a des longs, des courts, des brillants, et d'autres là tout ternes, presque éteints.
Comme les vies des hommes. Les unes commencent, d'autres sont dans leur force, d'autres sont faibles et presque éteintes.
Est-ce qu'il est long et haut, celui-ci?
C'est le cierge d'un enfant qui vient de naître.
En voilà un qui fond dans l'air.
C'est un vieillard qui meurt.
Et le mien, où est-il?
Mais là, tout près de toi.
Celui-là, mais il est court comme tout. Et il tremble, il va s'éteindre.
Mais mon compère, tu l'as dit toi-même, tu vas mal, tu es faible. Tu restes à grelotter auprès du feu. Il ne te reste plus qu'une semaine à vivre.
Une semaine? Mais c'est impossible. Je suis un ami, nous sommes même autant dire parents. Vous, vous êtes maître ici, vous ne pourriez pas me faire durer mon cierge un tout petit peu plus, un tout petit peu de temps, par exemple en prenant un peu de celui d'à côté, là, qui est très long.
Mais celui d'à côté, mon ami, c'est celui de ton fils. Et si je faisais comme tu dis, je ne serais plus juste.
Il ne restait plus au bonhomme qu'à rentrer chez lui, mettre ses affaires en ordre, rassembler tous les siens et mourir en paix, ce qu'il fit.